ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission qui vous est proposée par les lycéens de Michelet qui s'appelle « Du côté de chez Jules ». Parce que le lycée, effectivement, s'appelle Jules Michelet. Vous avez autour de la table 7 élèves qui sont réunis. Je précise que cette émission, c'est eux qui l'ont conçue, c'est eux qui l'ont préparée et c'est eux qui vous la proposent aujourd'hui. Ils ont eu absolument carte blanche. C'est eux qui ont choisi aussi le sujet en toute liberté. Autour de la table sont réunis aujourd'hui...
Ludovic.
Emilio.
Julie.
Charlotte.
Anaïs.
Je crois que vous êtes tous, toutes et tous en terminale. Hein ?
Oui.
En terminale philo ?
C'est ça.
Littéraire.
Parfait, très bien. Alors, Ludovic, quel sujet avez-vous décidé de traiter aujourd'hui ?
Bien, la musique. Parce qu'aujourd'hui, la musique envahit l'espace parce que les moyens d'enregistrement et de diffusion sont multiples. La musique est utilisée dans les centres commerciaux pour nous retenir ou influencer notre comportement. Elle permet de ne pas se sentir seul dans les parkings et de ne pas s'ennuyer en voiture. Nous n'avons jamais autant entendu de la musique, podcastée ou enregistrée. Mais l'écoutons-nous vraiment ? Sans doute davantage quand on est lycéen, parce que c'est le moment où on se forge sa personnalité et ses goûts. On en parle aussi quelquefois, mais le plus souvent, pour dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Plus rarement, pour identifier que la musique fait débat. Même dans ses registres les plus simples, comme la chanson. C'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui, au-delà de l'émotion ressentie en écoutant de la musique. En effet, il y a beaucoup à dire et il y a des mots à échanger. Il y aura donc aujourd'hui deux débats. Le premier s'intitule « La chanson à texte est-elle le modèle de la bonne chanson ?» Et le second a pour titre « L'omniprésence de l'anglais dans la chanson ».
Très bien. Alors pour le premier débat donc sur la chanson à texte, Charlotte.
Nous allons présenter l'importance du texte dans une chanson qui fait passer un message essentiellement. Nous chantons sans cesse à tue-tête des chansons que nous écoutons dans nos MP3, smartphones ou à la radio. Et comprenons-nous vraiment les paroles et ce qu'elles veulent transmettre ? Et souvent, les chansons veulent effectivement exprimer un message. J'ai choisi de parler de la chanson d'Eric Cochet de Collectif Paris Africa parce que dans mon lycée, je suis jeune ambassadrice à l'UNICEF. Donc, cette chanson est interprétée par près de 70 artistes français et étrangers. Et les bénéfices de cette chanson, et l'album aussi par conséquent, sont entièrement reversés à l'UNICEF au profit de la lutte contre la crise nutritionnelle et alimentaire en Afrique. Donc voilà pour la petite histoire. Cette chanson transmet un message à travers des enfants issus de pays pauvres qui sont privés d'avoir une enfance normale, comme la nôtre, dans les pays plutôt riches. C'est-à-dire sans éducation, ils ne sont pas bien alimentés et ils n'ont rien pour effectivement jouer. Il s'agit donc ici de sensibiliser à travers une chanson. D'où l'importance du texte dans une chanson pour mieux comprendre le message qu'elle fait passer.
J'aurais pu être un
beau destin magnifique
comme un autre qui grandit
loin des dunes d'Afrique
sans avoir à scruter
sans avoir à subir
un ciel qui vous oublie
un ciel sans avenir.
Je demande pas un ruisseau encore moins une rivière. Je vais seulement jeter des bouteilles dans la mer.
Parce que je vous laisse jouer,
mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici.
Moi ce que je voudrais c'est danser
pour faire tomber la pluie.
Je vous regarde creuser la terre.
Alors, que pensez-vous du point de vue de Charlotte ? Qu'est-ce qui veut intervenir ?
Moi, je suis Léo. D'accord, en fait. Je trouve qu'effectivement, dans la musique, on a vraiment besoin de paroles pour faire passer un message. Je trouve que, voilà, que c'est un des buts principaux de la musique, en fait, vraiment de partager quelque chose. Et ça se fait surtout par la langue, je pense.
Ouais, moi, je modère un peu ça dans l'idée que
comment dire, de la musique, je sais pas sûr si c'est vraiment le but de la musique. Après, il y a beaucoup de façons de passer un message. Au final, faire un poème, un essai, pourquoi pas. Et bon, ça peut être une des façons de, donc, d'utiliser la musique, de faire passer un message, oui, oui. Mais je sais pas si c'est son but premier. Enfin, j'ai pas forcément cette impression-là.
Bon, ça c'était le point de vue d'Emilio. Est-ce que autour de la table...
Moi, je vais plus rejoindre le point de vue d'Emilio parce que c'est vrai que la musique, il faudrait pas la restreindre à une seule fonction. La fonction qui permettrait de transmettre une message ou une histoire, faudrait plutôt les... Enfin, je pense que c'est plutôt un concept plus élargi, en fait. La musique peut avoir d'autres visées.
Moi, je suis assez d'accord avec Joanne et Emilio, dans le sens où la musique a plusieurs fonctions, et ce qui tend à rassembler les gens, plutôt que de les séparer en faisant des fonctions distinctes.
Bon, Léo a besoin d'un supporter ou d'une supportrice. Alors, Anaïs.
Alors, moi, je pense que la chanson à texte, c'est le modèle de la bonne chanson. Mais à condition, voilà, donc je rejoins un peu ce que dit Léo, mais à condition qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre le texte et la musique, pour moi c'est complémentaire. Une chanson réussie forme un tout. Réduire une chanson à un message, comme l'a fait Charlotte, ou à une histoire, oui, c'est peut-être appauvrir le pouvoir de la musique qui est de nous faire vivre une expérience auditive, pour moi. Donc pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur le commentaire d'une des compositions de mon groupe qui s'appelle les The Whiter Tears. Donc la chanson s'intitule « Alchimie de la douleur ». Il s'agit en fait d'un poème de Baudelaire mis en musique. Et donc par exemple, nous considérons que, enfin je parle au nom du groupe, hein, que le poème s'avère être un matériau donc qui construit la musique au même titre que les accords, que les mélodies qui composent ce morceau. Parce que par exemple, on a d'une certaine manière renouvelé le rythme du poème en choisissant une des quatre strophes du poème comme refrain. Donc on ne respecte pas le rythme original du poème, et donc ce qui montre bien qu'on l'utilise comme un matériau. Et donc on a cette volonté, à travers le morceau, cette musique, on a voulu traduire en fait une atmosphère floue, on a voulu mener l'auditeur dans un univers onirique, dans un entre-deux, lui faire ressentir un sentiment de malaise entre le spleen et l'idéal, le transporter dans un espèce de laboratoire envahi de fumée qui déborderait des fioles d'alchimistes et qui ferait vivre à chacun une expérience auditive. Et pour faire cela, donc, on a choisi donc, d'utiliser, de créer un rythme ternaire, on a choisi de créer des mélodies envoûtantes, un chant proche du parler, de prendre un rythme, un tempo lent. Donc voilà, bon, je vous laisse écouter.
Joanne, est-ce que vous partagez le point de vue d'Anaïs ?
Le terme qu'elle a utilisé, expérience auditive, c'est vraiment ce qui pourrait qualifier la musique, oui. Et surtout les mots, en fait. Parce qu'il ne faut pas séparer les mots des instruments, je pense. Qu'il faut plus les mélanger ensemble pour créer une sorte d'expérience auditive et arriver à des visées différentes, comme transmettre un message, comme on a vu précédemment, ou à d'autres visées, par exemple, essayer de faire découvrir d'autres choses à l'auditeur, ou carrément, comme le montre bien la force de cette expression, une vraie expérience, quelque chose qui pourra bouleverser ou changer la personne. Je trouve que oui, par ce terme, Anaïs a très bien parlé de la musique.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques ? Julie ?
Moi, je suis tout aussi totalement d'accord avec Anaïs, parce que si les mots prennent le pas sur la musique, c'est un peu une sorte de poème chanté, enfin, Et si la musique est trop, après prendre le pas sur la chanson, ça, il y a une sorte de dysfonctionnement dans la musique entière, et peut-être que le message qu'il veut faire passer serait pas proprement compris.
Ludovic?
Moi, je suis assez d'accord avec Anaïs aussi, surtout que Voltaire a dit que la poésie, c'était la musicalité de l'âme. Et je trouve très intelligent aujourd'hui de savoir qu'il y a des gens qui attachent autant d'importance au texte dans une musique et qui comprennent que, justement, faire un accord entre l'instrument et le texte peut donner une harmonie qui est assez suffisante et assez puissante pour pouvoir délivrer un message assez clair. Donc oui, je pense que je suis assez d'accord avec Anaïs.
Léo ?
J'ai
plus
rien à dire là.
C'est très bien. Emilio, troisième point de vue.
D'accord. Donc, mon point de vue, oui, il se rapproche assez de celui d'Anaïs, c'est-à-dire de dire qu'il y a un ensemble donc de musicalité, d'ambiance qui vont faire la musique. Et je veux juste apporter une petite nuance à cela, parce que je vais pas être autant axé sur l'idée de prioriser le texte, c'est-à-dire que ça va vraiment être le but, ça va vraiment être de faire une mixité des sonorités. C'est dans l'idée d'une modernisation de la musique, c'est-à-dire que pour moi, le message peut se passer, peut être passé dans une forme plus globale, dans la forme finale au final de la musique, et pas forcément, comment dire, donner comme un piédestal à la parole, donc au langage dans la musique. Les paroles, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple d'une composition à moi que j'ai fait sur donc une chanson qui existe déjà d'un groupe qui s'appelle Frollo. Et donc, voilà, je vais utiliser en fait les paroles de la musique au même titre que le piano qu'il y a dans cette même musique, et modifier, enrichir avec des instruments qu'on rajoutera au-dessus de ça. L'exemple que j'ai donné, donc c'est La Petite Clémence, donc une musique que j'ai fait avec comme base une chanson donc qui existe déjà du groupe Frollo. L'idée, voilà, ça va être de rajouter donc des bruits d'ambiance, des pages qui se tournent, des rires d'enfants, inverser presque les sons pour voilà, vraiment donner une nouvelle touche à la musique, quelque chose de nouveau en fait, tout en restant dans l'idée d'un message. Voilà.
Des commentaires sur le point de vue d'Emilio.
Moi, je trouve que c'est plutôt un point de vue assez moderne au niveau de la musique, de pas utiliser la voix comme simplement quelque chose qui permet de transmettre, mais d'utiliser la voix comme un instrument en tant que tel. Après, c'est vrai que c'est une vision qui porte beaucoup à controverse de nos jours, et je pense que faire évoluer la musique dans ce sens-là, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'esprits réactionnaires qui ne peuvent pas prendre, qui trouvent pas que c'est une idée qui peut être intéressante ou qui puisse être utilisée en fait.
Alors moi qui suis d'une génération un peu différente de la vôtre, vous voyez, j'aimais beaucoup les chansons dites à texte, et avec les fameux 3B, c'est-à-dire Brassens, Barbara et Brel. Qu'est-ce que, pour des jeunes d'aujourd'hui, est-ce que c'est des chanteurs que vous écoutez encore ou pas du tout, ou vous êtes un peu réticent parce que vous trouvez justement que le texte prend trop d'importance par rapport à la musique?
Non, voilà, le but en fait, c'était donc ça, où je voulais intervenir, c'est que c'est justement la chanson originale est donc aussi une chanson d'un chanteur à texte et donc d'un message aussi, et j'apprécie aussi cette idée-là, et c'est justement en fait d'aller au-delà de cette musique et de lui donner comme une nouvelle jeunesse entre guillemets, et de garder ce même esprit justement de la musique qui a déjà été créée au final, parce que je viens juste le modifier, et donc de grâce à donc à des quelques modifications simplement le réactualiser en quelque sorte et garder le même esprit. Et bon, au final, oui, c'est vrai, enlever un peu l'importance du texte pour changer, parce que c'est ça le but, c'est de changer au final la musique.
Est-ce qu'il y a d'autres...
Ben, moi, je suis assez d'accord avec Emilio. Le but n'est pas de rompre avec des conventions musicales, mais au contraire d'aller au-delà et de pouvoir dire aux gens que la musique ne s'arrête pas là où, là où ce qu'elle était avant, quoi.
Il y a d'autres remarques ? Non ? Eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur CFM en ce moment. J'espère que vous êtes bien sur CFM et que vous êtes à l'écoute de l'émission, la première émission qui s'appelle Du côté de chez Jules, qui est une émission qui vous est proposée par les lycéens du lycée Jules Michelet de Montauban. Ils sont 7 réunis autour de la table. Ils ont débattu dans un premier temps de la chanson à texte. Et maintenant, ils vont débattre, c'est un sujet qu'ils ont proposé, qu'ils vont débattre entre eux, de l'hégémonie de l'anglais, je crois, dans les chansons actuelles. Est-ce un point positif ou un point négatif et autre? Je crois que c'est Julie qui va commencer par nous donner son premier point de vue.
Alors, je vois l'hégémonie de l'anglais comme quelque chose de plutôt positif dans le monde de la musique, parce que comme l'anglais est la langue qui est la plus parlée dans le monde, c'est une des meilleures façons de diffuser sa musique. Tout le monde à l'école apprend l'anglais dès son plus jeune âge, donc tout le monde est apte à comprendre un minimum cette langue. Et les groupes ont donc compris que pour être écoutés d'un niveau international, ce serait plus judicieux de parler une langue, de chanter en une langue que tout le monde pourrait comprendre, donc l'anglais. Et même ici, les groupes français, comme on pourrait voir Pony Pony Run Run ou Chaka Pong, chantent pratiquement toutes leurs chansons en anglais. Ou au moins, ont une chanson en anglais qui au milieu de leurs chansons en français. On pourrait voir Yodelis avec Sunday with the Flu comme une de ses chansons en anglais, qui d'ailleurs est la plus connue. Voilà. They call me sexy cause I'm hot, catch my mouth. Don't you know I am so hot, cause I am biggie. And everything is in the lag. I go me into your thing, make you scream my name. Honey, honey, ho, that's the goal. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant, yes I am.
Qui veut intervenir maintenant pour commenter un peu le point de vue de Julie? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous avez des réserves à faire, des remarques, des observations?
Alors, j'ai une petite remarque à faire.
Charlotte.
Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec Julie, mais je trouve que les autres langues, du coup, avec l'hégémonie de l'anglais, perdent leur valeur. Donc je trouve ça dommage que... qu'il n'y ait que l'anglais qui...
Vous voulez dire qu'elles ne sont pas assez mises en valeur?
Voilà, en fait, l'anglais domine la musique aujourd'hui, je trouve.
Il y a l'espagnol tout de même, non?
Oui, mais plus l'anglais.
Oui, vous avez raison. Voilà.
Mais à vrai dire, l'anglais... le fait que l'anglais soit omniprésent, c'est un peu un phénomène de société avec la mondialisation et le fait que tout le monde écoute la même chose, fait la même chose à peu près partout. C'est une certaine uniformisation. Même au niveau de la musique.
Oui, enfin, je ne crois pas que ce soit tellement récent, si vous voulez.
Depuis longtemps.
Bon, avec les Beatles, si vous voulez, beaucoup d'entre nous, beaucoup des gens de mon âge ont appris l'anglais avec les Beatles. Hein, c'était la motivation essentielle. Oui. Ou avec les Rolling Stones, d'ailleurs.
Pour rejoindre Julie, ouais, je serais assez d'accord. Parce qu'au final, oui, je vais un peu garder le même discours, mais de dire qu'au final, la musique va être sûrement plus importante que les paroles dans l'ensemble, à part si la volonté du groupe en question va être de passer un message, justement, où là, ça change le propos. Et voilà, moi, je voulais dire aussi que faut peut-être étudier pourquoi, au final, on utilise cette langue et quel est le but vraiment de l'artiste, si ce n'est de se faire connaître de façon plus rapide, plus facile.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que l'anglais est une langue, quand elle est chantée, qui est relativement musicale?
Ouais, c'est vrai, il y a une certaine musicalité, elle est assez douce. Oui.
Moi, je vais te faire un peu de rentre-dedans. Voilà. Parce que t'as parlé de l'anglais comme quoi c'était super bien que ce soit utilisé dans la musique, parce que c'était une langue universelle et que tout le monde pouvait comprendre un minimum. Mais si on se base sur ça, c'est-à-dire que les chanteurs chantent en anglais seulement pour toucher un public et faire des bénéfices, en fait, pour être connus mondialement ou alors internationalement, ne serait-ce que sur ce point de vue-là.
C'est surtout pour être compris, pas facilement pour certains bénéfices ou quoi que ce soit, mais d'un côté, c'est plus pour être compris dans leur texte par un maximum de gens.
Donc ça voudrait dire que la musique ne pourrait se comprendre qu'avec les paroles, et ne pourrait pas se comprendre avec les instruments derrière, avec les influences ou tout ce qu'elle pourrait porter par la musicalité, ou alors ne serait-ce que par le ressenti physique. La musique se ressent aussi.
Si, mais j'ai jamais dit le contraire. Mais c'est juste que je voulais dire que l'anglais passait mieux partout, en gros.
C'est un moyen. Moyen d'arriver à ses fins.
Ouais, enfin, moi je vois plutôt négativement. Du coup, je vois plus comme un moyen pour toucher plus de personnes.
Oui.
Alors qu'on pourrait l'utiliser avec d'autres langues qui sont certes peut-être pas connues mondialement, mais qui sont tout aussi touchantes. Je pense à des langues chantantes comme les langues du sud de l'Europe, ou à des langues plus caverneuses, plus rock, comme plus dans les nords, ou la Russie.
Oui, mais est-ce que tu en écoutes, toi?
Ben non.
Des chansons suédoises?
Ouais, je les écoute pas, c'est vrai, mais elles sont pas assez mises en avant aussi. Il faut vraiment les chercher. Les quelques chansons suédoises qui sont
dommage,
connues,
d'ailleurs.
C'est les 2-3 chansons qui viennent de sortir récemment par Vandergate, je crois. Mais sinon, elles sont pas assez mises en avant aussi.
C'est vrai.
En fait, moi, je pense que très franchement, oui. Cette hégémonie de l'anglais, en fait, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement, ça nie vraiment la pluralité des cultures et le fait que voilà quoi, la musique, c'est un moment de partage. Et effectivement, comme disait Joanne, promulguer l'anglais, c'est vraiment effectivement un moyen de faire de l'argent avec la musique. Et sous couvert de la mondialisation, du partage universel et tout, j'ai l'impression qu'en fait, on essaie surtout de répandre un type de musique pour tout le monde. Donc voilà. Donc moi, je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle Back in Africa. C'est un projet, en fait, qui vise à mélanger des symphonies de Bach avec des chansons traditionnelles africaines. Donc je trouve que c'est un bon exemple pour parler un petit peu de cette pluralité des cultures qui se réunit. Et du fait que voilà qu'on peut se parler entre humains à travers le monde sans forcément parler anglais.
Avant que vous réagissiez au propos de Léo, je suis sûr que Léo veut nous traduire un peu cette chanson. Il veut nous dire de quoi il s'agit, non ? On parlait de la chanson à texte dans la première partie, etc. Là, vous pouvez nous dire quelles sont les paroles.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Non, mais c'est pour montrer effectivement qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre la langue et qu'on peut très bien trouver du plaisir à écouter une musique à partir du moment où il y a une bonne harmonie entre effectivement les paroles et la musique, je crois.
Exactement.
Alors, d'autres commentaires ?
C'est vrai que c'est compliqué de faire... Ouais, c'est vrai que, enfin, en tout cas, pour ma part, je suis un peu au milieu. C'est-à-dire que Je suis autant d'accord de dire que l'anglais va être une façon assez pratique et assez efficace de diffuser un message ou une musique. Autant c'est vrai que l'esprit d'un instrument, par exemple, j'aime beaucoup les instruments mongols, les violons, tout ça d'Asie, c'est très fort, c'est très émotif, hein, comme c'est un instrument qui suscite beaucoup d'émotions Ouais, on n'a pas forcément. C'est pour ça aussi que je voulais encore revenir sur mon point de vue. On n'a pas forcément besoin des paroles pour transmettre un sentiment, une émotion.
Oui. Moi, je suis assez d'accord avec le projet à Léo, enfin avec le point de vue de Léo et son projet, enfin parce que je trouve que c'est plutôt une bonne chose de voir qu'un morceau, enfin qu'un compositeur tel que Bach, qui a déjà fait ses preuves, qui a une musique qui est déjà assez puissante, qui rayonne dans le monde entier, soit assemblé à une musique moins connue. Un style musical qui n'a pas encore fait ses preuves. Et ça fait penser et ça fait dire aux gens qui l'écoutent que c'est deux musiques qui ont la même valeur. Et je trouve que ça, c'est assez bien. Une pureté des cultures assez importante.
Parce que Ludovic, tu penses que pour toi, certaines musiques doivent faire leurs preuves, qu'elles doivent gagner en valeur ou...
Non, ben, mais je trouve ça bizarre que, que tous les styles musicaux peuvent avoir la même valeur. Prouver que même si deux musiques, enfin, si une musique est moins connue qu'une autre, si un morceau n'est pas aussi connu qu'un autre, il peut pour autant avoir la même valeur et plaire à autant de monde. C'est ce que je dis.
Oui, d'accord. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi.
Alors, le dernier point de vue va être exprimé par Johan.
Moi, en fait, j'ai un point de vue à peu près nuancé. Enfin, je me retrouve dans la situation qu'Emilio a parlé tout à l'heure, où il se trouvait un peu tiraillé entre les deux côtés. Je pense qu'en fait, la question de l'hégémonie de l'anglais n'est pas une question qui se pose. Enfin... Je pense que l'artiste, on devrait laisser le libre choix à l'artiste de créer lui-même sa musicalité sans lui dire tu fais de l'anglais, ne fais pas en anglais, utilise ta langue, c'est ce qui est le plus important, il faut que tu la promouvoies. Est-ce qu'on demande à un peintre de ne pas utiliser certaines couleurs ou certaines formes? Ben non, c'est une question qui se pose pas, mais ça, à la musique ça revient pareil. La langue, c'est une couleur musicale en fait, on pourrait l'interpréter comme ça. Mais... il faut tout de même faire attention, c'est pour ça que je nuance mon propos, parce que l'artiste ne doit pas utiliser l'anglais à des fins commerciales ou seulement à des fins imitatives pour que celle-ci soit seulement connue internationalement, qu'il fasse du chiffre ou alors qu'il se fasse connaître. C'est pour ça que j'étais un peu en contradiction avec Julie tout à l'heure. Donc pour présenter mon propos, pour montrer que si on utilise l'anglais seulement à des fins commerciales et que cela transforme la musique qui est un art seulement en un produit commercial, je vais utiliser Vocab de Hocus Pocus. Dans cette chanson, il chante en... C'est un rap français, en fait, mais il utilise en même temps des voix anglaises avec lesquelles il interagit. Et je trouve que grâce à celle-là, il montre les échanges interculturels et leurs effets bénéfiques qui permettent un enrichissement, qui permettent aussi de rapprocher les peuples. Il montre que, cependant, il faut quand même faire attention, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas tout accepter. C'est vrai que dans la langue anglaise porte beaucoup de vulgarité... au travers certaines chansons qui sont notamment les plus commercialisées et les plus écoutées par certains jeunes. Donc dans cette chanson, il en parle. Il évoque aussi sa sensibilité où il montre que pour lui, sa langue natale, le français, lui rappelle la musicalité d'un régiment allemand. Et donc dans sa chanson, on sent qu'il se retrouve tiraillé entre l'anglais et sa langue natale, le français, mais cela enrichit sa chanson en fait. Yeah, yeah, je leur ai piqué des mots de ci, de là. Et mon chant lexical vaut pas plus de 6 dollars. Je me prends pas pour Jay Dillard, loin de là. Je reste fan, bref, j'idolâtre plein de gars. One love. Parce que trop de classiques me mettent presque en transe. Mais parfois je tombe de haut quand j'en saisis le sens. On se moque du fond tant qu'on atteint la cible. Résultat, plus de bip que de mots intelligibles. Let's get motherfucker in it. Pardon? Once again. Non, 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 passons. J'aime ma langue natale, mais je dirais pas tellement qu'elle a la musicalité d'un régiment allemand. Je suis né ici, pas NYC, parfois plutôt fier. Quand j'arrive à faire chanter ce foutu vocabulaire, on a leur soda, le best of du business de Bush Beast. Et eux, on notre French kiss. Je veux pas t'aider, pas t'aider, shit, pas t'aider, motherfucker. Je veux pas t'aider, nigger, pas t'aider, bitch, pas t'aider, sucker. Je veux pas t'aider, pas t'aider, shit, pas t'aider, motherfucker. Je veux pas t'aider, nigger, pas t'aider, bitch, pas t'aider, sucker.
Est-ce que vous êtes toutes et tous d'accord avec Johan ou est-ce que vous avez des propos plus des propos différents, vous voulez apporter des nuances à ce qu'il vient de dire? Ou est-ce qu'il y a un consensus autour de ce qu'il vient de dire? Je ne sais pas. Charlotte.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Joanne, du coup. Enfin, parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec avec l'anglais, on s'arrête souvent au fait que, oui, c'est trop commercial, machin. Alors que, oui, enfin, à la base, c'est un choix. C'est le choix de l'artiste de n'importe quelle langue avec quoi la chanson est interprétée.
Est-ce que Léo, vous êtes d'accord?
Ah bah oui, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, c'est vrai que voilà quoi. Le but, c'est de produire juste quelque chose de musical. C'est pas, c'est vrai que la question là de se demander français, anglais, une certaine langue, c'est un peu annexe en fait au final, effectivement.
Je sais pas si c'était le but de l'intervention de Joanne, parce que justement, en fait, ça montrait. Enfin, selon moi, ça montrait que le, ouais, l'anglais. Son hégémonie, bon, ça a un certain côté sympa, mais qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute et peut-être tourner son regard vers une musique plus consciente, plus, en tout cas, être plus conscient de la musique qu'on écoute finalement.
Oui, ben en fait, j'interprète, je parlais des deux côtés, comme quoi l'artiste avait sa propre liberté, mais qu'aussi en tant qu'auditeur, on devait s'ouvrir à d'autres cultures et faire attention aux quelles chansons anglaises on écoute. Mmh. Ça vient des deux côtés en fait. C'est une relation entre l'interprète et l'auditeur, je pense.
Ouais, c'est intéressant, ça rapproche un peu les deux. Les deux côtés de, ouais, de la scène, c'est cool.
Ben, la musique, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui réunit les gens. Enfin,
ouais, un échange,
moi, je le vois comme ça. Mm. Donc, pourquoi pas réunir avec l'artiste? Pourquoi séparer l'artiste comme si c'était un être supérieur à l'auditeur ou je sais pas.
Ouais. Ludovic fait des grands gestes. Vous êtes...
Non, ils viennent de dire ce que je voulais dire, en fait.
Désolé, Jacques.
C'est pas grave. Et moi, je voulais dire, oui, j'étais d'accord avec Emilio. Et puis, dans un autre sens aussi, lorsqu'on écoute un morceau en anglais, par exemple, un nouveau morceau, on ne connaît pas forcément l'artiste qui est derrière. Donc, en tant qu'amateur de musique, moi je connais pas forcément tous les artistes de tous les morceaux que j'écoute, donc je peux pas vraiment comprendre, sans comprendre les paroles, le message que l'artiste veut faire passer. Donc je trouve que c'est assez intéressant justement de s'ouvrir à d'autres choses.
Bien, et eh bien je crois qu'on a fait le tour de table. On a donc parlé de ces deux questions qui étaient là, donc la chanson à texte et l'hégémonie de l'anglais dans la musique. Emilio, peut-être que vous voulez conclure un peu cette première émission du côté de chez Jules.
Oui, bon, je pense que ce qu'on peut retenir donc de ces interventions, c'est que l'écoute de la musique, elle est très fréquente aujourd'hui, plus qu'avant. Et bon, c'est peut-être traduit par une éducation musicale qui est plus répandue aujourd'hui. On a plus l'accès à des formations, à l'écoute, tout ça. C'est des choses qui se font de plus en plus. Et donc ouais, on a l'impression que la musique, elle est nécessaire aujourd'hui, donc dans les cinémas, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les Intermarchés, on peut entendre de la musique un peu partout. Et donc voilà, on peut dire, bon, pour revenir sur l'idée de la chanson elle s'axe sur des paroles, donc parce qu'il y a une certaine mémoire du langage. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que au final, passer un message, c'est une bonne idée de le passer par la musique, parce que ça amène un petit côté sympa, c'est ça nous porte. Et mais donc pour nuancer, le plus important, ça passe pas forcément par les mots, parce que la musique au final, elle se base sur des mélodies, des rythmes, des tempos, des instruments, des timbres de voix différents, et c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui va nous toucher dans cet ensemble au final. Le débat est justifié parce que voilà, la musique c'est une notion un peu abstraite, il fallait en parler pour mieux comprendre le principe. Et mais est-ce que c'est un effort intellectuel au final? Est-ce que c'est inné, la musique, chez les gens? Voilà, c'est ce qu'on sait pas encore vraiment. Et donc dans le présent immédiat, c'est un peu compliqué de commenter en même temps la musique, en même temps qu'elle se joue, parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez instinctif, et c'est ça qu'on retient de la musique, c'est que c'est aussi comme ça qu'on retient les musiciens qui vont nous plaire ou qui vont marquer donc l'histoire. Et donc voilà, le problème, c'est qu'au final, si on se pose trop de questions sur la musique, on la tue un peu, parce que c'est dans l'émotion en fait qu'elle va être importante, et c'est dans l'émotion qu'on va l'apprécier le plus. Donc voilà, pour finir, le langage avec la musique, c'est un bon mélange, mais il faut faire attention à bien être conscient de ce qu'on écoute, et aussi être bien conscient de la différence qu'il y a entre les deux, et que c'est un ensemble, et que il y a deux parties, et c'est pas forcément lié. Voilà.
Anaïs, Charlotte, Julie, Emilio, Léo, Ludovic, Johan, je vous remercie. Je vous rappelle que cette émission s'appelle Du côté de chez Jules. C'était la première. Elle vous est proposée par les lycéens du lycée Michelet. C'est eux qui la préparent, c'est eux qui la réalisent. Et c'est eux donc qui ont échangé ce mois-ci autour du studio CFM. À bientôt, et on se retrouve pour une nouvelle émission sur un sujet que vous choisirez encore pour le thème le mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
À cette minute, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira, elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin.
Voilà, et si vous avez raté tout ou partie de cette première émission du côté de chez Jules, vous la retrouverez bien évidemment en podcast sur cfmradio.fr.